Chapitre 18. La vie d'un humain, tout comme la vie d'une famille ou celle de tout un peuple, persiste en tant que mémoire. Mon peuple doit en venir à considérer cela comme faisant partie de son processus de maturation. Il constitue un organisme, et par cette mémoire persistante, il accumule ses expériences dans un réservoir subliminal. L'humanité espère pouvoir utiliser, si besoin est, ce matériau dans un univers changeant. Mais une grande part de ce qui est stocké dans ce réservoir peut être perdue par ce jeu de hasard accidentel que nous appelons le destin. Une autre grande part peut ne pas être intégrée aux relations évolutionnaires. Ainsi, elle ne peut pas être évaluée et activée par ces modifications permanentes de l'environnement qui affectent la chair. L'espèce peut oublier. Voici la valeur spéciale du Kwisatz Haderach que le Bene Gesserit n'a jamais soupçonné. Le Kwisatz Haderach ne peut oublier. Le livre de l'étau, d'après Arkalada. Inexplicablement, Stilgar fut profondément troublé par la remarque futile de l'étau. Ses paroles se diffusèrent jusqu'au centre de son esprit, tandis qu'il franchissait le détroit de sable qui les séparait du siège Taber. Stilgar prit conscience qu'elles étaient maintenant plus importantes pour lui que tout ce que l'étau avait pu dire cette nuit, là-bas, sur le serviteur. C'était vrai que les jeunes femmes d'Arrakis étaient particulièrement belles cette année, de même que les jeunes hommes. Les visages avaient la riche sérénité de l'eau. Les regards étaient dirigés vers l'extérieur, très loin. Souvent, les jeunes Fremen allaient le visage nu, refusant le masque du distille, les chevaux des tubes. Fréquemment, au dehors, ils ne portaient même pas de distille, préférant ces nouveaux vêtements flous qui, à chacun de leurs mouvements, révélaient les lignes sveltes de leur corps. Cette beauté humaine répondait à la beauté nouvelle du paysage. Par contraste avec l'ancienne Arrakis, c'était un choc pour le regard que ces touffes de tiges vertes éclatant sur le brun rouge des rochers. Et les sièges de la civilisation des métropoles troglodytes, avec leurs seaux d'humidité et leurs pièges à vent aussi nombreux que complexes, cédaient peu à peu la place à des villages construits à l'extérieur, souvent avec des briques de boue, de la boue. Pourquoi ai-je souhaité voir le village détruit ? Se demanda Stilgar, et il trébucha dans le sable. Il n'ignorait pas qu'il appartenait à une race agonisante. Les vieux Fremen observaient, stupéfaits, les marques de la nouvelle prodigalité de leur monde, comme cette eau que l'on gaspillait dans l'air à seule fin de pouvoir façonner des briques. L'eau que dépensait une seule famille du village aurait permis à tout un siège de survivre une année durant. Ces nouvelles constructions avaient même des ouvertures transparentes qui permettaient à la chaleur du soleil de pénétrer dans les demeures et de dessécher un peu plus les corps. Des fenêtres qui ouvraient sur l'extérieur, qui permettaient aux Fremen des maisons debout de contempler leur nouveau paysage. Ils n'étaient plus prisonniers d'un siège. Et comme la vision changeait, l'imagination changeait aussi. Stilgar en avait conscience. Cette vision nouvelle unissait les Fremen à tout l'univers impérial, leur rendait sensible l'espace sans limite. Eux qui autrefois avaient été liés à ce monde aride par l'esclavage de ses rudes nécessités. Jamais encore ils n'avaient connu cette ouverture de l'esprit qui était la marque des habitants de la plupart des planètes de l'Impérium. Stilgar percevait ces changements par contraste avec ses propres craintes et ses doutes. Dans les jours anciens, rares avaient été les Fremen à oser imaginer qu'ils pourraient un jour quitter Arrakis pour commencer une vie nouvelle sur l'un des mondes riches en eau. C'était un rêve d'évasion interdit. Les yeux de Stilgar se posèrent sur la silhouette de l'étau qui cheminait à quelques pas devant lui. L'étau avait fait allusion à une interdiction de l'émigration. Ma foi, cela avait toujours été la réalité pour une grande partie des étrangers. Mais l'isolement planétaire n'avait nulle part été aussi total que sur Arrakis. Les Fremen s'étaient repliés sur eux-mêmes. Ils s'étaient barricadés dans leurs esprits tout comme ils s'étaient barricadés dans leurs cavernes. Le sens véritable du siège, refuge pour les périodes troublées, avait été perverti, transformé en un lieu monstrueux de réclusion pour tout un peuple. Leto avait dit la vérité, Muad Dib avait changé tout ceci. Stilgar se sentait perdu. Ses vieilles certitudes s'effritaient. Cette vision nouvelle sur l'extérieur suscitait la vie, une vie qui voulait échapper à la contrainte. Comme les jeunes femmes sont belles cette année. Les anciens usages, mes usages, admit Stilgar, avaient obligé le peuple à ignorer toute histoire qui ne concernait pas directement son propre labeur. Les Fremen d'autrefois avaient lu l'histoire au travers de leurs terribles migrations, de leurs exodes de persécution en persécution. L'ancien gouvernement planétaire n'avait fait qu'appliquer la politique imposée par l'ancien Imperium. Il avait étouffé la créativité et la notion de progrès, d'évolution. La prospérité était dangereuse pour l'ancien Imperium et ceux qui le gouvernaient. Brutalement, Stilgar comprit que ces éléments étaient tout aussi dangereux pour la ligne que suivait Alia. Une fois encore, il trébucha et perdit encore quelques pas sur Leto. Pour les usages anciens, les religions anciennes, il n'y avait pas eu d'avenir, rien qu'un présent immuable. Avant Muad Dib, les Fremen avaient été conditionnés à croire en l'échec, jamais en l'accomplissement possible. Bien sûr, ils avaient eu foi en Liet Kynes, mais sa projection embrassait 40 générations. Ce n'était pas un accomplissement, non, Stilgar se l'avouait maintenant, mais un rêve qui s'était aussi refermé sur lui-même. Muad Dib avait changé cela. Pendant le djihad, les Fremen avaient beaucoup appris sur le vieil empereur Padishah, Shaddam IV. Le 85e Padishah de la maison de Corino à s'asseoir sur le trône du Lion d'Or, à régner sur cet impérium de mondes innombrables, avait utilisé Arrakis comme banc d'essai de toutes les politiques pouvant renforcer l'Empire. Les gouverneurs planétaires qui s'étaient succédés sur Arrakis avaient entretenu un pessimisme endémique à seule fin d'étayer leur pouvoir. Ils s'étaient appliqués à ce que chacun sur ce monde, y compris les libres nomades qui étaient les Fremen, devint familier d'injustices multiples et de problèmes insolubles. On avait appris au peuple à se considérer comme désespéré, hors de toute assistance. Comme les jeunes femmes sont belles cette année. Regardant une fois encore Leto qui s'éloignait, gagnant du terrain sur lui, Stilgar se demanda comment cet enfant avait pu libérer ce flot de pensée en lui par cette seule remarque anodine. Il avait suffi de ces quelques mots pour qu'il considère Alia et son propre rôle au sein du Conseil sous un jour totalement nouveau. Alia se plaisait à déclarer que les anciens usages cédaient du terrain lentement. Stilgar admit en lui-même qu'il avait toujours été à demi rassuré par ce constat. Le changement était dangereux. L'initiative devait être réprimée et la volonté individuelle combattue. N'était-ce donc pas la fonction des prêtres que de combattre la volonté de l'individu? Alia répétait que les occasions de compétition ouvertes devaient être ramenées à l'intérieur de strictes limites. Mais cela signifiait que la menace récurrente de la technologie ne pouvait servir qu'à contenir les peuples, tout comme elle avait servi ses maîtres d'autrefois. Toute technologie autorisée devait être enracinée dans un rituel. Autrement... Stilgar trébucha à nouveau. Il avait atteint le Khanat à présent. Il aperçut l'étau qui l'attendait, au-delà du verger d'abricotiers sur la berge. Stilgar s'aperçut alors que ses pieds foulaient l'herbe folle. De l'herbe folle? À quoi puis-je croire? Un Fremen de sa génération considérait que tout individu devait avoir un sens profond de ses limitations propres. Les traditions étaient très certainement l'élément de contrôle le plus efficace d'une société stable. Les gens devaient connaître les frontières de leur temps, de leur société, de leur territoire. Le siège fournissait le modèle de toute pensée. Quoi de néfaste en cela? Le sentiment de clôture devait pénétrer chaque choix individuel, imprégner la famille, la communauté et tous les actes d'un bon gouvernement. Stilgar s'arrêta. Il regarda Leto et vit son sourire. « Sait-il seulement quel tourbillon j'ai dans la tête ?» le vieux Naïb des Fremen essaya de se réfugier dans le catéchisme traditionnel de son peuple. Chacun des aspects de la vie requérait une seule forme. Sa circularité propre étant fondée sur la connaissance secrète de ce qui fonctionnerait et de ce qui échouerait. Le modèle de la vie, pour la communauté, pour chaque élément de cette société plus vaste qui allait plus haut et plus loin que la cime des gouvernements, ce modèle devait être le siège et sa contrepartie dans le sable, Shai Hulud. Le ver géant était certes une créature formidable, mais il se réfugiait dans les profondeurs impénétrables du sable lorsqu'on le menaçait. « Le changement est dangereux », se répéta Stilgar. L'uniformité et la stabilité devaient être les objectifs du gouvernement. Mais les jeunes gens étaient beaux. Et il se souvenait des paroles de Moad Dib lorsqu'il avait déposé Shaddam IV. « Je ne souhaite pas une longue vie pour l'empereur, je souhaite une longue vie pour l'empire. » « N'est-ce pas ce que je me suis dit à moi-même ?» se demanda Stilgar. Il se remit en marche, se dirigeant vers l'entrée du siège. Il se trouvait sur la droite de l'étau et celui-ci obliqua pour le rejoindre. Muad Dib avait dit autre chose, se souvint Stilgar. Les sociétés, les gouvernements et les civilisations, tout comme les individus, naissent, grandissent, se reproduisent et meurent. Dangereux ou non, le changement viendrait. Ces jeunes Fremen si beaux le savaient. Il pouvait déjà le voir en regardant au loin et s'y préparer. Stilgar dut s'arrêter. L'étau lui barrait le chemin. Il lui adressa un regard perçant et dit « Tu vois, Stil, la tradition n'est pas ce guide absolu que tu croyais. » Chapitre 19. Lorsqu'un Fremen, trop longtemps, se trouve éloigné du désert, il meurt. Nous disons que c'est le mal de l'eau. Les commentaires de Stilgar. Il est difficile pour moi de te demander cela, dit Alia. Mais je dois veiller à ce que les enfants de Paul héritent d'un empire. La régence n'a pas d'autre raison d'être. Elle se détourna du miroir devant lequel elle était assise pour sa toilette matinale. Elle regarda son époux, mesurant la pénétration de ses paroles. En de pareils moments, il convenait de guetter ses réactions avec vigilance. Il ne faisait aucun doute qu'il était infiniment plus subtil et dangereux que le Duncan Idaho d'autrefois, maître d'armes de la maison des Atréides. Son apparence n'avait pas changé, ses traits restaient anguleux et sombres sous sa longue chevelure noire, mais durant toutes ces années, depuis qu'il avait quitté son état de Gola, il avait subi une profonde métamorphose intérieure. Comme tant de fois auparavant, Alia se demanda ce que la renaissance après la mort du Gola avait pu laisser comme marque dans le moi secret de Duncan. Avant que les Tleilaxu aient exercé sur lui leur science subtile, les réactions de Duncan avaient été frappées du sceau des Atréides. Loyauté, adhésion fanatique au code moral de ses ancêtres mercenaires, prompt au calme. Il s'était montré implacable dans sa vengeance contre la maison des Harkonnen, et il était mort en sauvant Paul. Mais les Tleilaxu avaient acheté son corps au Sardaukar, et dans leur cuve de régénération, ils avaient conçu un zombie Katrundo avec la chair de Duncan Idaho, sans aucun de ses souvenirs conscients. Il avait reçu l'éducation d'un Mentat avant d'être adressé comme présent à Paul, ordinateur humain, outil d'absolue précision, armé d'une compulsion hypnotique de meurtre dirigée contre son possesseur. La chair de Duncan Idaho avait résisté à cette compulsion, et dans cette terrible lutte, son passé cellulaire avait ressurgi. Alia avait décidé depuis longtemps qu'il était dangereux de songer à lui en tant que Duncan Idaho dans ses pensées intimes. Mieux valait le nommer par son nom de Gola. Hate. Infiniment mieux. Et il était essentiel que jamais il ne puisse entrevoir, aussi brièvement que ce soit, l'image du vieux baron Harkonnen, là, dans son esprit. Duncan, s'apercevant qu'Alia l'étudiait, se détourna. L'amour ne pouvait dissimuler les changements intervenus en elle, pas plus qu'il ne pouvait rendre opaques ses motivations. Les yeux de métal à facettes que les Tleilaxu avaient donnés à Duncan étaient d'une cruelle clairvoyance quant à la traîtrise. Il lui faisait maintenant apparaître Alia comme un être irradiant la méchanceté, presque masculin. Et cette vision lui était insupportable. « Pourquoi ne veux-tu pas me regarder ? » demanda-t-elle. « Il faut que je réfléchisse, » dit-il. « Dame Jessica est une Atréide. » « Et tu es loyal envers la maison des Atréides et non envers moi, n'est-ce pas ?»« Ne me prête pas des raisonnements aussi inconstants. » Alia pinça les lèvres. Avait-elle agi trop vivement ? Duncan s'approcha de la lucarne par laquelle on pouvait observer un coin de la plaza. Les pèlerins avaient commencé de se rassembler, suivis par les marchands qui se pressaient autour comme des prédateurs encerclant un troupeau. Le regard de Duncan se fixa sur un groupe particulier. Ces gens-là se frayaient leur chemin d'un air décidé. Ils portaient des paniers en fibre d'épices et des mercenaires Fremen les suivaient, un pas en arrière. « Ils vendent des morceaux de marbre corrodés, » dit Duncan en les désignant. « Savais-tu cela ? Ils les déposent dans le désert et les vents de sable les sculptent. Parfois les formes sont intéressantes. Ils disent que c'est une nouvelle forme d'art, très populaire, de véritables œuvres du vent de dune. J'ai acheté une de ces pièces la semaine dernière, un arbre doré à 5 branches. Gracieux, mais très fragile. « Ne change pas de sujet, » dit Alia. « Je n'ai pas changé de sujet. C'est beau, mais ça n'est pas de l'art. Les humains créent l'art par leur violence propre, par leur seule volonté. » Il posa la main droite sur le rebord de la lucarne. « Les jumeaux détestent cette cité et je crains de comprendre leurs motifs. »
Je ne parviens pas à comprendre le rapport, dit Alia. Enlever ma mère n'est pas la supprimer. Elle sera sauve en étant ta prisonnière.
Cette cité a été construite par des aveugles, continua Duncan. Savais-tu que Leto et Stilgar ont quitté le siège Taber la semaine dernière et qu'ils se sont rendus dans le désert? Ils ont été absents toute la nuit.
On m'a rapporté cela. Ces babioles de marbre. Veux-tu que j'interdise leur vente?
« Ce serait mauvais pour le commerce, » dit Duncan en se retournant. « Sais-tu ce que Stilgar m'a répondu quand je lui ai demandé pourquoi ils étaient sortis ? Il m'a dit que Leto souhaitait communier avec l'esprit de Muad Dib. » Alia ressentit soudain le froid de la panique et elle riva son regard au miroir pour recouvrer son calme. Jamais Leto n'aurait quitté le siège de nuit pour une raison aussi absurde. Avait-elle donc affaire à une conspiration ? Idaho leva une main devant ses yeux pour oblitérer l'image de son épouse. Stilgar a ajouté qu'il a accompagné Leto parce qu'il continue de croire en Muad Dib.
Bien sûr qu'il continue d'y croire.
Idaho eut un rire bizarrement creux. Il prétend qu'il continue d'y croire parce que Muad Dib prenait toujours le parti des petites gens.
Que lui as-tu répondu, toi ?
Demanda Alia, et sa voix ne pouvait cacher sa peur. Il baissa la main.
Je lui ai dit, « Cela te range parmi les petites gens. »
Duncan, voilà un jeu dangereux. En harcelant ce naïb des Fremen, tu pourrais bien éveiller une bête qui nous détruirait tous.
Il continue de croire en Muad Dib. C'est notre protection.
Qu'a-t-il répondu ensuite ?
Qu'il savait qui il était.
Je vois.
Non, je ne crois pas que tu vois. Les choses qui mordent ont les dents plus longues que Stilgar.
Je n'arrive pas à te comprendre aujourd'hui, Duncan. Je te demande d'accomplir une chose importante, vitale. Pourquoi tout ce verbiage ?
Elle semblait si irritée. Duncan revint à la lucarne. Lorsque j'ai reçu l'éducation de Mentat, c'est très difficile, Alia, de comprendre comment fonctionne ton propre esprit. On t'apprend d'abord que tu dois laisser ton esprit fonctionner par lui-même. C'est très étrange. Tu peux faire jouer tes muscles, les exercer, les développer. Mais l'esprit ne dépend que de lui-même. Quelquefois, quand tu as réussi à apprendre cela, il te montre des choses que tu ne désires pas voir.
Et c'est pour cela que tu as voulu insulter Stilgar ?
Stilgar ne connaît pas son esprit. Il ne le laisse pas libre.
Sauf pour les orgies d'épices.
Même pas. C'est ce qui fait de lui un naïb. Il est un chef, il contrôle et limite ses réactions. Il fait ce que l'on attend de lui, Lorsque tu sais cela, tu connais vraiment Stilgar et tu peux mesurer la longueur de ses dents.
C'est ainsi que font les Fremen. Eh bien, Duncan, feras-tu ce que je te demande? Il faut l'enlever et que l'on croie que la maison de Corino est derrière cela.
Il demeura silencieux, soupesant le ton de sa voix et les arguments qu'elle invoquait avec ses facultés de Mentat. Ce plan pour l'enlèvement de Dame Jessica révélait une cruauté et une froideur dont les dimensions, tout soudain, le choquaient. Ainsi, Alia mettait en jeu la vie de sa propre mère pour les raisons qu'elle avait avancées? Non, elle mentait. Peut-être les bruits qui couraient à propos de Javid et d'Alia étaient-ils fondés. À cette pensée, il ressentit comme un aiguillon de glace au creux de son estomac.
« Tu es le seul en qui je puisse avoir confiance, » dit Alia.
« Je sais. » Elle prit ces simples mots pour un assentiment et sourit à son image dans le miroir. « Tu sais, » reprit Idaho, « le Mentat apprend à considérer chaque être humain comme une chaîne de relations. » Elle ne répondit pas. Elle s'était assise et un souvenir lui revenait. Ses traits étaient vides tout à coup. Idaho, l'observant par-dessus son épaule, vit son expression. Il frissonna. Alia semblait en communion avec des voix intérieures. « Des relations, » murmura-t-il. Et il songea. « On doit se débarrasser de ces vieilles souffrances comme le serpent se débarrasse de sa peau pour en acquérir de nouvelles et accepter leurs limites. C'est la même chose pour les gouvernements, même la régence. Les gouvernements anciens sont comme autant de mues abandonnées. Ce plan doit être exécuté, mais pas ainsi que me l'ordonne Alia. » Haussant les épaules, Alia dit enfin,
« Leto ne devrait pas sortir ainsi en ce moment. Je le réprimanderai. »
« Pas même avec Stilgar ?»«
Pas même avec lui. »
Elle se leva, s'approcha d'Idaho et posa une main sur son bras. En elle, quelque chose le révoltait. Il réprima un nouveau frisson, se réfugia dans une brève évaluation Mentat. Il y avait quelque chose en elle. Il ne parvenait plus à la regarder vraiment. Le parfum du mélange de son maquillage parvenait à ses narines. Il s'éclaircit la gorge.
« Aujourd'hui, dit-elle, il faut que j'examine les présents de Faradine. »
« Les vêtements ?»«
Oui. Ce qu'il fait ne correspond jamais aux apparences. Et il ne faut pas oublier que son bachar, Tiekanik, est un adepte du Shaomurki, du Shomas et autres subtilités dans l'art du régicide. »
« Le prix du pouvoir, » dit Duncan en s'écartant. « Mais nous sommes mobiles, et Faradine ne l'est pas. » Elle étudia son profil acéré. Parfois, il lui était difficile d'imaginer ses pensées. Croyait-il que la liberté d'action engendrait la puissance militaire? Ma foi, l'existence sur Arrakis était depuis trop longtemps tranquille. Les gens jadis en éveil par des dangers permanents dégénéraient au repos.
« Oui, » dit-elle, « nous avons encore les Fremen. »
« La mobilité, » répéta Duncan. « Nous ne pouvons dégénérer en une armée d'infanterie. Ce serait de la folie. »
Irritée, elle dit, « Faradine usera de tous les moyens pour nous détruire. »
« Nous y voilà. »
« Voilà une forme d'initiative, une mobilité que nous n'avions pas autrefois. Nous avions un code. Le code de la maison des Atreides.
Nous achetions toujours notre passage et laissions à l'ennemi le rôle de pillard. Cette restriction ne tient plus, bien entendu. Nous sommes aussi mobiles l'un et l'autre, la maison des Atreides et la maison de Corino.
Nous écartons ma mère du pouvoir pour la mettre hors de danger autant que pour toute autre raison, dit Alia. Nous vivons toujours selon le code.
Duncan baissa les yeux sur elle. Elle connaissait le danger qu'il y avait à inciter un Mentat à la réflexion. Ne voyait-elle donc pas à quoi il était parvenu? Pourtant, il l'aimait encore. Il passa la main devant ses yeux. Elle paraissait si jeune. Dame Jessica avait raison. Alia donnait réellement l'impression de n'avoir pas vieilli d'un jour depuis le temps qu'ils vivaient ensemble. Elle possédait la douceur de traits de sa mère Bene Gesserit, mais ses yeux étaient ceux d'une Atreide, calculateur, impérieux, dominateur. Et maintenant, une chose, rusée et cruelle, semblait guetter au fond de ses yeux. Idaho avait servi la maison des Atreides trop d'années pour ne pas en connaître les faiblesses aussi bien que les forces. Mais cette chose qu'il percevait chez Alia. Oui, cette chose était nouvelle. Les Atreides étaient capables de duplicité envers leurs ennemis, mais jamais envers leurs alliés ou leurs amis, et certainement pas avec la famille. C'était une racine de la morale des Atreides. Soutiens ton peuple au mieux de tes capacités. Montre-lui combien l'existence est meilleure sous la bannière des Atreides. Donne la preuve de ton amitié par la sincérité de ton comportement. Mais ce qu'Alia demandait maintenant n'était pas d'une Atreide. Duncan le sentait dans toute sa chair, par chacun de ses nerfs. En cet instant, il n'était plus qu'un détecteur vivant qui enregistrait l'attitude nouvelle et étrangère d'Alia. Brusquement, son sensorium mentat s'établit au plus haut niveau de perception, et son esprit bascula dans la transe glacée où le temps n'existait pas, où seule était la computation. Alia comprendrait aisément ce qui advenait en lui, mais il n'y pouvait rien. Il s'abandonna à la computation mentat. Computation. Il y avait dans la conscience d'Alia un reflet de Dame Jessica qui vivait une pseudo-vie. Il perçut ce reflet aussi nettement que celui du pré-Gola Duncan Idaho, qui demeurait une constante de sa propre conscience. Alia possédait cette conscience parce qu'elle était une pré-née. Lui, Duncan, l'avait acquise dans les cuves de régénération Tleilaxu. Pourtant, Alia rejetait ce reflet, mettait la vie de sa mère en question. Donc elle n'était pas vraiment en contact avec cette pseudo-Jessica qui se trouvait en elle. Donc, elle était totalement possédée par une autre pseudo-vie qui excluait toutes les autres. Possédée, aliénée, abomination. Parce qu'il était mentat, il accepta cela et examina d'autres facettes du problème. Tous les Atreides étaient présents sur cette unique planète. La maison de Corino oserait-elle attaquer depuis l'espace? L'esprit de Duncan passa en revue, en un éclair, tous les accords qui avaient mis fin aux formes primitives de conflits armés. 1. Toutes les planètes étaient vulnérables à une attaque spatiale. Ergo, tous les dispositifs de représailles vengeance devaient être scis hors planète par chaque maison majeure. Faradine devait parfaitement savoir que les Atreides n'avaient pu omettre cette précaution élémentaire. 2. Les boucliers énergétiques constituait un moyen de défense absolue contre les projectiles et explosifs de type non atomique, et c'était la raison première du retour à des formes de combat au corps à corps. Mais l'infanterie avait ses limitations. Il était possible que la maison de Corino eût reconstitué les Sardaukars tels qu'ils étaient avant la bataille d'Arakin, mais ils ne pouvaient être à la mesure de la joyeuse cruauté des Fremen. 3. Le féodalisme planétaire se trouvait constamment exposé aux dangers venant d'une vaste classe de techniciens, mais les effets du djihad butlérien tempéraient encore les excès technologiques. Les Tleilaxu, Ixien et quelques autres mondes dispersés des marches constituaient à cet égard la seule menace, et ces mondes étaient tout aussi vulnérables que les autres au courroux de l'ensemble de l'Impérium. Le djihad butlérien ne serait pas défait. La guerre mécanisée requérait une importante classe technicienne. L'impérium des Atreides avait canalisé cette force sur d'autres voies. Aucune classe à haute technicité n'échappait à sa vigilance. Et l'Empire demeurait résolument féodal, naturellement, puisque c'était là la meilleure forme de société qui fut lorsqu'il s'agissait d'essaimer par-delà les frontières lointaines et mal connues, vers des mondes nouveaux. Duncan eut conscience du scintillement de sa perception mentat, transperçant les strates de souvenirs qui lui étaient propres, totalement imperméables au passage du temps. Il atteignit une conviction. La maison de Corino ne se risquerait pas à une attaque atomique illégale. Le chemin de la décision, la computation éclair, l'avait conduit à cette certitude, mais dans le même temps, il était absolument conscient des éléments qui étayaient sa conviction. L'Impérium contrôlait autant d'armes nucléaires et assimilées que toutes les grandes maisons réunies. La moitié au moins de ces dernières réagirait sans réfléchir si la maison de Corino violait la convention. Le dispositif de représailles des Atréides, si hors planète, serait soutenu par une force écrasante sans qu'il soit besoin de battre le banc. La peur seule suffirait à rameuter les autres maisons. Saloussa Secundus et ses alliés s'évanouiraient en nuages torrides. Non, la maison de Corino ne courrait pas le risque d'un tel holocauste. Elle était certainement très sincère lorsqu'elle soutenait la thèse qui voulait que l'arme atomique fût gardée en réserve à une seule fin, défendre l'humanité contre la menace d'une éventuelle intelligence étrangère que nul n'avait rencontrée jusque-là. Les pensées de computation avaient des bords nets, un relief aigu. Elles ne recelaient aucune zone intermédiaire floue. Alia avait choisi l'enlèvement et la terreur parce qu'elle était devenue étrangère, non Atréide. La maison de Corino était une menace, mais une menace qui ne correspondait nullement au tableau qu'Alia en avait donné devant le conseil. Si elle voulait écarter Dame Jessica, c'était uniquement parce que l'intelligence pénétrante de la Bene Gesserit avait découvert ce qui ne lui était, à lui, apparu clairement qu'à l'instant. Idaho s'arracha à la transmentat et découvrit Alia, immobile devant lui, l'observant avec une expression froide et calculatrice. « Ne préférerais-tu pas faire assassiner Dame Jessica ?» demanda Duncan. L'éclair étranger de sa joie filtra entre ses paupières avant d'être éteint par le faux rideau de l'outrage. « Duncan !» Oui, cette Alia étrangère préférait le matricide. « Tu as peur de ta mère, et non pour ta mère, » dit-il. Lorsqu'elle lui répondit, il n'y eut pas le moindre changement dans son regard. « Oui, j'ai peur. Elle a fait son rapport sur moi aux sœurs. Que veux-tu dire? Est-ce que tu ignorerais donc ce qui tente par-dessus tout une Bene Gesserit ?» Elle se rapprocha de lui, l'observa entre ses cils, soudain séductrice. « Mon seul désir était de demeurer forte et vigilante pour le bien des jumeaux. » « Tu parles de tentation, » remarqua Duncan, et il y avait la froideur du mentat dans sa voix. C'est ce que les sœurs dissimulent le plus profondément, ce qu'elles redoutent avant tout. C'est pour cela qu'elles m'ont appelé « abomination ». Elles savent que leurs inhibitions ne suffiront pas à me retenir. La tentation. Mais non, elles parlent avec emphase. Elles disent « la grande tentation ». Tu vois, nous autres qui employons les enseignements Bene Gesserit, nous pouvons influer sur des choses telles que l'équilibre interne des enzymes dans nos organismes, ce qui peut prolonger notre jeunesse plus encore que le mélange. Discernes-tu les conséquences que cela pourrait avoir si les Bene Gesserit se livraient à cela? Chacun pourrait le remarquer. Je suis certaine que tu peux mesurer l'exactitude de mes propos. C'est le mélange qui fait de nous la cible de tant de complots. Nous avons le contrôle d'une substance qui prolonge la vie. Qu'adviendrait-il si l'on venait à apprendre que le Bene Gesserit détient un secret plus important encore? Tu vois, aucune révérende mère ne serait plus en sûreté. L'enlèvement et la torture des sœurs deviendraient une pratique courante. Tu es parvenu à cet équilibre des enzymes, dit Duncan. Et c'était une constatation, non une question. J'ai défié les sœurs. Les rapports que ma mère enverra aux sœurs feront des Bene Gesserit les alliés inconditionnels de la maison de Corino.
C'est très plausible, pensa Duncan. Mais il est certain que ta mère ne se tournerait pas contre toi.
Elle a été une Bene Gesserit longtemps avant d'être ma mère. Duncan, elle a accepté que son fils, mon frère, soit soumis à l'épreuve du Gomjabar. Elle l'a organisé et elle savait qu'il pourrait ne pas y survivre. Les Bene Gesserit ont toujours eu peu de foi et beaucoup de pragmatisme. Elle se retournera contre moi si elle pense qu'il y va de l'intérêt du Bene Gesserit.
Il acquiesça. Oui, Alia était si convaincante, songea-t-il avec tristesse.
Nous devons conserver l'initiative, reprit-elle. C'est notre meilleure arme.
Il y a le problème de Gurney Alec. Faudra-t-il que je tue mon vieil ami?
Gurney est parti en mission d'espionnage dans le désert.
Il ne nous gênera pas, répondit-elle,
sachant pertinemment que Duncan était déjà au courant.
Très bizarre. Le gouverneur régent de Caladan exécutant des missions ici sur Arrakis.
Pourquoi pas? Il est son amant. Sinon en fait, du moins dans ses rêves.
Oui, bien sûr, admit Duncan, et il se demanda si elle décelait le mensonge dans sa voix.
Quand comptes-tu l'enlever?
Il vaut mieux que tu ne le saches pas.
Oui, oui, je vois. Et où l'emmèneras-tu?
Là où on ne pourra pas le retrouver. Sois certaine qu'elle ne sera plus une menace pour toi. Il lut nettement la joie dans ses yeux.
Mais où vas-tu?
Si tu l'ignores, tu ne pourras le révéler à un diseur de vérité. Tu diras que tu ne sais rien.
Ah, très habile, Duncan.
Maintenant, elle croit vraiment que je vais tuer Dame Jessica, se dit-il. Au revoir, ma bien-aimée. Elle ne comprit pas ce qu'il y avait de définitif dans sa voix, et elle l'embrassa furtivement lorsqu'il la quitta. Et tandis qu'il suivait les couloirs du labyrinthe du temple, pareil à ceux d'un siège, Idaho se frottait les yeux. Car même les yeux de Tleilaxu ne sont pas immunisés contre les larmes.